Bien, cher Olivier, merci pour cette introduction et cette invitation à ce colloque extrêmement intéressant sur un auteur que nous avons tous beaucoup lu depuis plusieurs années. Devant l'œuvre de Kantorowicz, je dois avouer avoir des sentiments un peu contradictoires. Le premier, c'est d'être un peu comme un enfant dans un magasin de confiserie. Il y a tellement de choses, on ne sait pas que choisir. Mais ce sentiment de satisfaction se double aussi d'un sentiment un peu de crainte. L'idée aussi d'être un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine, on ne sait pas trop aussi que toucher. On a peur que tout s'écroule. Ou de ne pas toucher les bonnes choses. C'est pourquoi je limiterai mes commentaires à deux points sur cette œuvre très riche. Le premier touche un peu peut-être ce qu'on pourrait appeler la forme, c'est-à-dire le procédé de transmission du savoir que Kantorowicz décrit dans son œuvre, et essentiellement, dans ce cas-là, le rôle du juriste. Le second porte peut-être en contrepartie sur des questions de fond, et je me limiterai ici à deux points. Le premier point, c'est sur un terme que Kantorowicz emploie dans certains de ses développements, qui est l'idée d'obligation. Je ne développerai pas ici l'aspect longuement développé par Pierre Legendre sur l'idée d'obligation comme créance. Et le second point que j'aimerais évoquer, c'est aussi une sorte de présence qui sous-tend toute l'œuvre de Kantorowicz et qui, en même temps, n'est pas évidente, quoique lui le mentionne en passant, c'est la question de la juridiction, qui garde donc chez Kantorowicz ce que j'appelle un mystère. En 1955, Ernst Kantorowicz publie dans la Harvard Theological Review le texte d'une conférence présentée lors du congrès joint de l'American Catholic Historical Association and the American Historical Association qui s'était tenu à Chicago en 1953. Dans cet article intitulé « Mystère de l'État, un concept absolutiste et ses origines médiévales », Kantorowicz retrace l'origine et l'application aux monarchies séculières d'un concept, mystère de l'État, qui participe de la naissance de l'absolutisme dans la construction de l'État moderne. Il fonde en grande partie sa démonstration sur les commentaires de juristes, civilistes et canonistes des derniers siècles du Moyen Âge, en soulignant, je cite, que les mystères de l'État furent inséparables de la sphère du droit et de la juridiction est un fait sur lequel il n'est pas nécessaire de revenir. La démonstration et ses conclusions seront reprises et amplifiées dans son ouvrage sur les deux corps du roi, dont la première édition suit deux années plus tard la publication de cet article. Il est donc plus que probable que les arguments présentés lors de la conférence de 1953 participent de la réflexion qui aboutira à la publication des deux corps du roi, dont Kantorowicz indique par ailleurs, comme l'a rappelé Olivier Beau, dans sa préface, donc, qu'elle fut incitée dès 1945 par une discussion avec son ami Max Radin, professeur de droit romain et de droit constitutionnel à la faculté de droit de Berkeley. À vrai dire, dès 1948, dans un article qu'il qualifiera lui-même de scherzo, en raison sans doute de son titre provocateur, Christus Fiscus, mais titre qu'il juge lui-même, je cite, « trop beau pour être ignoré », comme il l'avouera à ce même Max Radin dans une lettre publiée il y a quelques années par Carlos Petit dans son ouvrage sur la correspondance de Max Radin, Kantorowicz mettait en évidence le rôle, je cite, « de la pensée juridico-politique médiévale qu'il associait, je cite encore, au réveil du droit romain et à la naissance d'une interprétation scientifique et professionnelle du droit ». L'article sur les mystères de l'État Et le livre sur les deux corps du roi, qui en développera les arguments dans un style très érudit, se lise comme un roman, non seulement en raison de la trame romanesque du récit, qui est construit sur le modèle d'une chasse au trésor, en l'occurrence une chasse aux déclarations et aux expressions créées ou recyclées par les juristes, à partir de sources juridiques romaines et de sources théologiques, récit qui nous transporte à travers les siècles d'un pays à l'autre et d'un auteur à l'autre à un va-et-vient confondant d'érudition entre des œuvres rédigées à des siècles de distance dans des contextes sociaux et politiques très divers, mais romanesques aussi dans la distribution des rôles et la personnalité des acteurs qui sont mis en scène dans une interprétation judicieuse et relativement cohérente de leurs déclarations compte tenu de la disparité spatiale et temporelle des sources utilisées. Ce faisant, Kantorowicz atteint le but qu'il s'était fixé, je cite, « de produire un texte lisible et de garder l'attention éveillée du lecteur en évitant de l'abandonner dans une jungle bourdonnante de mouches tsétsé académiques ». Dans ce scénario, fin de citation, dans ce scénario, les juristes jouent un rôle de premier plan, mais pour le moins ambigu, soit comme les fossoyeurs d'un système structuré sur l'image d'une autorité charismatique universelle, soit comme les héros des nouveaux emblèmes d'un pouvoir immortel. Dans les deux cas, ils sont présentés comme les acteurs du changement dont ils entendent être aussi les bénéficiaires. L'historien qu'est Kantorowicz est conscient du contexte politique et des circonstances sociales dans lesquels apparaît un nouveau groupe de professionnels du droit qui n'hésite pas à se qualifier de prêtres de la justice et de chevaliers du droit et à revendiquer une prééminence justifiée à leurs yeux par leur expertise, comme le souligne la revendication d'un savoir universel exprimé par Accurse, qui est d'ailleurs cité par Kantorowicz, dans une glose au digeste vieux. Dans le livre, dans le livre de Kantorowicz, comme dans les articles qui entourent sa publication, les multiples renvois à leurs œuvres marquent autant de coups de théâtre qui scandent le récit du passage non seulement d'un système normatif à un autre, mais aussi d'une culture politique à une autre. Cette dimension dramatique des deux corps du roi que Carl Schumacher a récemment décrite, je cite, comme une lamentation sur l'émergence d'un monde sans justice et sans grâce, fin de citation, suggère aussi une critique subtile mais ferme du positivisme juridique qui avait, dans la première moitié du XXe siècle, délivré, pour le pire, l'État souverain de ses ambiguïtés et de ses ultimes inhibitions. Pour toutes ces raisons, les lecteurs de Kantorowicz n'ont pas manqué de souligner son intérêt pour le droit. Outre les sources liturgiques et théologiques, les sources juridiques, en particulier les œuvres des civilistes et canonistes médiévaux, tiennent une place importante dans son œuvre. Au moment de la publication des Deux Corps du Roi, cet intérêt pour les sources de la doctrine juridique n'était pas surprenant chez les historiens dans le milieu académique anglo-saxon. Walter Ullmann à Cambridge, émigré autrichien, Gainsborough à Wisconsin, puis Princeton, Brian Tierney, élève de Walter Ullmann à Cornell, et John Mundy à Columbia, pour n'en citer que quelques-uns, exploitaient tous les sources juridiques médiévales dans divers ouvrages sur l'histoire des idées politiques et des institutions, alors que la récente création à l'instigation de Stéphane Kuttner à l'Université catholique de Washington de l'Institut de droit canonique médiéval, dont Ernst Kantorowicz sera l'un des premiers membres du conseil d'administration, renouvelait l'intérêt des historiens pour les sources du droit canonique dans le contexte des débats sur la place du droit dans l'Église catholique qui s'exprimeront pleinement lors du Second Concile de Vatican et seront clos par la promulgation ultérieure en 1983 du nouveau code de droit canonique et la constitution apostolique sacrée disciplinae leges de Jean-Paul II. Force est de constater cependant que chez Kantorowicz, cette familiarité avec les sources de la doctrine juridique ne se solde pas nécessairement par une connaissance équivalente des règles de droit et du raisonnement juridique. Malgré l'importance accordée dans son œuvre aux revendications intellectuelles des juristes, le droit et son rôle dans la mise en place d'un nouvel ordre institutionnel conservent une part de mystère que le recensement des nombreuses formules empruntées au droit romain et aux sources théologiques ne peut entièrement dissiper. Tout se passe comme si, essentiellement préoccupé par la reconstruction généalogique de concepts et d'expressions tirés de sources diverses, Kantorowicz s'abstenait d'en interpréter les pleines conséquences normatives et institutionnelles de leur nouvelle autorité. Le renvoi assez général, un peu comme une sorte d'invocation à, je cite, « la sphère du droit et de la juridiction » et au monde des juristes, constitue l'un des fils directeurs de son œuvre sans pour autant l'affranchir d'une certaine ambivalence, non seulement sur les rapports entre la théologie et le droit, mais aussi sur la contribution originale de ce dernier aux fondations de ce qui deviendra l'État prémoderne. Cette ambiguïté tient en partie, nous semble-t-il, à la difficulté de saisir la différence fondamentale entre deux conceptions du rapport entre l'État et la loi, qui est illustrée par les positions respectives des théologiens et des juristes. Position qu'il est permis de résumer d'une façon un peu anachronique, donc je vous prie de m'excuser, dans le contraste entre « rule of law » et « rule by law », le gouvernement du droit et le gouvernement par le droit. Pour être juste et éviter de faire un faux procès, observons que d'une part, Kantorowicz n'a jamais prétendu raisonner en juriste. Il décrit, sans fausse modestie, son incursion dans le droit comme une forme d'intrusion. Il utilise le terme anglais, terme juridique de trespass. Dans une discipline voisine dont il prie les juristes professionnels, nous dit-il, de l'excuser. D'autre part, l'originalité des idées et son intelligence de la société médiévale ne suffisent pas à l'immuniser contre la tendance dominante dans les années 50 de la réception gauchiste, qui depuis Savigny, privilégiait pour diverses raisons qu'il serait hors de propos d'envisager ici, la primatie de Bologne et la prééminence d'un savoir juridique dispensé ex cathedra. Deux prémices qui présentaient l'avantage, après la tragédie humaine et la crise identitaire de la Seconde Guerre mondiale, de mettre en valeur l'homogénéité de la tradition juridique occidentale et sa permanence à travers les siècles, avec par exemple la référence à un jus commune idéalisé comme preuve d'une Europe sub lege romana, dans une idéologie historicisante qui justifie encore chez certains l'idée d'un droit européanisé. On comprend dans ces conditions pourquoi les citations scrupuleuses des commentaires romano-canoniques et la subtilité de leur interprétation ne révèlent qu'une partie de l'histoire que Kantorowicz nous présente. Le phénomène que décrit Kantorowicz soulève plusieurs questions, non seulement sur les modalités des divers emprunts d'un système à un autre, mais aussi sur le rôle des juristes dans ce processus. Pour le comparatiste, le passage d'un système normatif à un autre évoque le modèle du transplant, de la transplantation, développé par Alan Watson dans les années 70. Pour ce dernier, le développement d'un système juridique est rarement original. Il s'opère essentiellement par un processus d'imitation plutôt que d'innovation. Cette thèse, volontairement provocatrice, a suscité de nombreuses prises de position, plus ou moins critiques, mais elle a sans aucun doute contraint les comparatistes à identifier avec plus de rigueur les rapports entre différents systèmes et la nature des emprunts qui en constituent la raison. Pour Watson, qui fonde ses conclusions sur ses recherches en droit romain, le rapport entre la société et le droit est infiniment plus complexe que ne le décrit l'opinion selon laquelle le droit ne serait autre que le miroir de la société. Les diverses interprétations de la corrélation entre droit et société influencent non seulement l'évaluation de la viabilité de la règle transplantée, mais aussi la légitimité du recours à un tel procédé. Comment, dans ce cas, peut-on évaluer la portée des emprunts opérés par les juristes dans les derniers siècles du Moyen Âge? S'agit-il simplement de transferts pro forma, d'une terminologie plaquée artificiellement sur une réalité différente, ou de l'appropriation suivie d'une interprétation originale de concepts qui se révèlent en définitive la source d'innovations plus substantielles? Et dans ce cas, quel rôle jouent les juristes dans ce processus? Selon la réponse à la première question, la fonction des juristes médiévaux, qui, comme l'observe Kantorowicz, je cite, « avait librement recours, sans scrupule ou inhibition, à des métaphores et à des comparaisons théologiques pour développer leur point de vue », peut varier, donc, cette fonction peut varier de simple colleur d'affiche, passé maître dans l'art du copier-coller, à la fonction de traducteur d'idées dans un langage juridique qui n'altère pas l'identité ni l'autorité initiale des formules traduites, ou encore à celle de créateur de concepts originaux et diffuseur d'innovations institutionnelles. Ou encore, les trois fonctions peuvent aussi participer d'un seul et même processus, tant il est vrai que malgré l'apparente unité des sources en droit romain et les efforts d'harmonisation des sources canoniques, leurs exégètes forment un groupe très hétérogène qui n'est que vaguement connecté par un langage commun et son interprétation du rapport entre le fait et la norme. Quand Accurs, par exemple, dans l'exemple précité, aussi cité par Kantorowicz, déclare que le juriste est un expert en théologie car tout est dans le corpus juris et que rien n'existe en dehors du droit, il ne se limite pas simplement à utiliser ce que Kantorowicz appelle la lingua mezza theologica pour représenter une vision théologique du pouvoir politique, mais il intègre la théologie comme une branche du droit et l'interprète en conséquence. Dans cette optique, le processus de sécularisation que décrit Kantorowicz comprend deux phases concomitantes dans la projection d'un nouvel ordre juridique. Il participe d'une part d'une sécularisation de la justice, avec la transition d'une justice divine à une justice humaine, illustrée à cette époque par l'avènement de multiples traités de procédures romano-canoniques qui substituent les garanties procédurales à la référence au divin comme source de vérité. Ce processus remet aussi à l'ordre du jour la célèbre formule Res judicata pro veritate accipitur. Traité de procédure dont le rôle dans la diffusion d'un droit plus ouvert aux variations locales, et là je parle sous autorité, a été aussi mis en évidence par Emmanuel et Conte, contribue aussi donc à la sécularisation des modes de représentation du pouvoir et des références identitaires, qui correspond à un processus de juridicisation, pardonnez-moi ce barbarisme, qui n'est pas une imitation du système importé, mais passe par une réinterprétation des principes qui en réforment la structure et dont les juristes se veulent, comme le montre Kantorowicz, être à la fois les prêtres et les chevaliers. Dans les deux cas, ces fonctions sacerdotales et chevaleresques se comprennent aussi dans une vision totalisante du rôle du juriste. Dans le cadre d'un système juridique, né de la confluence, plus que de la juxtaposition, d'un droit naturel divin et d'un droit humain, comme l'avait d'ailleurs observé Gratien à l'ouverture de sa Concorde des canons discordants, en disant que le genre humain était dirigé, était gouverné, régitur, à la fois par le droit naturel et par les mœurs, c'est-à-dire le droit humain. Les canonistes ont au fait d'interpréter la notion de droit naturel d'une façon légèrement différente de celle du droit romain, en indiquant que le droit naturel était le droit divin. En d'autres termes, la sécularisation du pouvoir politique par les juristes redéfinit les sens et les modalités du rapport entre le spirituel et le temporel. Ce montage, ou Pierre Legendre dirait tripotage, est rendu possible moins par l'art du juriste que par le droit, dans ce cas, le corpus juris civilis, qui par, je cite les juristes du Moyen Âge, son ancienneté et sa dignité, ne manque pas de que ne manquent pas de rappeler ces juristes, permet de suppléer aux incertitudes et aux erreurs indissociables des institutions nées de la faiblesse humaine. Le processus de transfert d'un système de valeurs à un autre, de diverses autoritates, à travers une lecture unitaire des sources romaines, s'opère aussi le long de deux modes d'interprétation a priori incompatibles des sources théologiques et des sources juridiques. Le passage d'un système à un autre est bien illustré par le cas énigmatique du décret de Gratien, œuvre d'harmonisation dont on relève de plus en plus le substrat théologique, dans un monde juridique qui, du moins chez les juristes qui seront lus par Kantorowicz, tendent de plus en plus vers l'unification. Deux modèles, donc, harmonisation, unification. L'harmonie des dissonances, selon une formule de Stefan Kuttner, s'oppose jusqu'à la fin du XIIe siècle à la suppression des différences. Consacrée à partir du XIIIe siècle, notamment dans la promulgation des décrétales pontificales au Liber Extra, dans la bulle Rex Pacificus de Grégoire VII, qui condamne les faussaires. C'est ici que la théorie du transplant, développée par Watson, révèle ses limites. D'une part, elle sous-estime l'importance des réactions immunitaires aux principes et règles transplantés dans la société réceptrice et l'ordonnement juridique qui en est le récepteur. D'autre part, elle ne permet pas de cerner avec précision le rôle des juristes et surtout leur motivation en dehors d'une vague ambition sociopolitique manifestée par une catégorie socioprofessionnelle dont la présumée homogénéité reste encore à démontrer. Par exemple, aucune des catégories à envisager dans une typologie des transplants développée par Jonathan Miller ne décrit exactement le rôle des juristes. Si les deux premières catégories, pour des raisons de réduction de coûts ou celles de décisions prises sous la pression d'acteurs externes, ne correspondent pas aux étapes du processus décrit par Kantorowicz, deux autres catégories, celle du transplant comme générateur de légitimité et celle du transplant par esprit d'entreprise, ne traduisent que très partiellement les motivations des juristes médiévaux. Si certains font manifestement preuve d'un certain esprit d'entreprise et d'ascension sociale dans la gestion de leur carrière académique et diplomatique, nombre d'entre eux se satisfont des privilèges attachés à leur chair ou leur position dans l'administration locale. À vrai dire, le groupe des auteurs cité par Kantorowicz sur une période s'étalant sur plusieurs siècles est trop hétérogène pour que l'on puisse distinguer une motivation commune justifiée par le désir d'exercer une influence politique. À ce problème donc de la transplantation, nous pouvons peut-être substituer un modèle développé par les sciences sociales sur le principe de la diffusion de l'innovation. Ce principe, ce processus a été pour la première fois étudié par Everett Rogers, qui définit l'innovation comme une idée ou une pratique ou un objet qui est perçu comme neuf par un individu ou par un groupe qui en fait l'adoption. Le processus définit par Roger, les principaux éléments de la diffusion de nouvelles idées sont au nombre de quatre. Il faut d'une part que cette idée ou ces idées soient perçues comme une innovation par ceux qui les reçoivent, que ces idées soient communiquées par des canaux spécifiques sur une certaine période de temps parmi des membres d'un groupe social. Les qualités essentielles d'une innovation représentent aux yeux des juristes médiévaux qui étaient en mesure d'en assurer la diffusion avec succès sont au nombre de 5. Elles présentent d'une part un avantage relatif, elles sont compatibles avec le nouveau système, elles peuvent être facilement appliquées, elles sont visibles et elles correspondent à un savoir défini. Ce passage de concept, donc d'un système à l'autre, dépend aussi d'un degré d'égalité ou de similarité entre les divers agents du changement, dans un milieu qui est plus ou moins homogène. En ce cas, même si la volonté politique des monarques médiévaux et de la papauté ne peut être mise en doute, les canaux de communication entre le milieu des juristes et des théologiens répondent à d'autres logiques. Dans ce mécanisme donc de diffusion, où le rôle des juristes comme vecteur d'innovation semble, chez Kantorowicz, ne pas faire de doute, le droit qui est transmis soulève lui aussi d'autres questions. Sur le fond, je ne retiendrai que deux exemples pris parmi d'autres. Le premier exemple porte sur la notion d'obligation, que cite Kantorowicz pour souligner les pouvoirs supérieurs du roi qui ne s'oblige que devant Dieu, mais devant personne d'autre. Le passage cité par Kantorowicz à cet effet se trouve dans le commentaire de Bald, un juriste inutroque que Kantorowicz utilise abondamment, sur une décrétale du pape Honorius III adressée à l'évêque de Kolochin en juillet 1220. La première mention de ce commentaire de Bald apparaît dans l'article sur les mystères de l'État. Elle est ensuite longuement développée dans les décors du roi. Cette décrétale intellecto, de façon incipite, passée au liber extra, ainsi que les nombreux commentaires dont elle fait l'objet tout au long du Moyen-Âge, établit une distinction entre les biens de la couronne et les biens personnels du monarque. Plusieurs fois citée dans les décors du roi, cette décrétale et son interprétation médiévale se situent donc au cœur des discussions sur l'inaliénabilité du domaine public, en l'occurrence les biens de la couronne. La réponse pontificale à la question de l'archevêque confirme que le roi de Hongrie ne peut briser le serment prêté lors de son couronnement de préserver les droits du royaume et de sauvegarder les biens de la couronne. Toute aliénation faite après son couronnement doit donc être révoquée, même si elle a été confirmée par serment. La question que Bald analyse correctement est donc celle de l'inaliénabilité de la couronne. Dans son argumentation, cependant, que Kantorowicz ne mentionne pas, Bald prend soin de relever l'exception de la donation de Constantin, qui n'était pas une aliénation légale, mais, nous dit-il, tout simplement un miracle accompli pour la défense de la foi catholique. Nous savons comment ce faux, d'aucuns diraient fake news de nos jours, forgé quelques siècles auparavant, fut exploité au Moyen-Âge pour magnifier la suprématie du pouvoir pontifical. Bald ne s'écarte pas de cette interprétation en précisant que toute opinion, considérant que l'Église ne fait qu'usurper ce pouvoir, n'est pas celle d'un bon catholique, car l'autorité suprême appartient au pape et à l'Église. Il en profite au passage, pratique coutumière entre collègues, pour qualifier d'accurse d'hérétique. Mais la nature miraculeuse de la donation ne suffit pas à en justifier la validité au regard du droit. Bald précise, dans le passage cité par Kantorowicz, que l'empereur a le pouvoir de faire la loi qu'il veut, qui renvoie au principe quid placuit principi legis habet vigorem, et n'est donc pas obligé envers les hommes, mais seulement, référence que Kantorowicz cote, est seulement obligé envers Dieu et sa dignité qui est perpétuelle. Bald ajoute cependant que ceci ne s'applique qu'à Constantin et que dans le cadre de cette donation. Car, observe-t-il, en matière féodale, le seigneur et son vassal s'obligent mutuellement, pariter in vicem obligantur, de façon que l'un ne puisse marcher sans l'autre. Deparit embulat et not claudicat. Cette argumentation développée par Bald donne une illustration classique du raisonnement des juristes médiévaux et de leur enseignement. Dans ce contexte, l'emploi du terme obligation par Bald n'est pas neutre, indépendamment du contexte féodal qui ajoute la force du lien de droit à l'engagement personnel. La définition juridique du terme que l'on retrouve aux instituts livre 3, 13, que Pierre Legendre a d'ailleurs mentionné, souligne que l'obligation est un lien de droit qui nous astreint par sa force nécessitée à nous acquitter d'une chose selon les droits de notre cité. L'obligation est donc en premier lieu un lien de droit qui lie celui qui s'engage, en l'occurrence ici l'empereur, qui s'engage devant Dieu, qui s'oblige devant Dieu. Ma seconde remarque concerne le renvoi par Kantorowicz à la notion de juridiction. Depuis les travaux de Piero Costa et aussi de, par exemple, Jesús Valero sur la juridiction comme expression du pouvoir, de très nombreuses pages ont été écrites sur ce problème et je n'entends pas y revenir dans le cadre de ce propos. Je voudrais simplement souligner que tout au long du Moyen-Âge, de Placentin, pour souligner un auteur, ou même de Rogerius, des auteurs cités par Kantorowicz, jusqu'à Bald et plus tard, on retrouve exactement la même définition de la juridiction tirée du droit romain tout au long de ces siècles. La juridiction est avant tout définie comme un pouvoir de droit public légitime, je traduis, de dire le droit et de statuer en équité. Juridictio ides potestas. Certains auteurs, cependant, mettent l'accent sur le fait que la juridiction est une charge, un munus. D'autres, comme Placentin, insistent sur l'autorisation, la licentia, permission, donc de dire le droit, et la faculté de statuer en équité. Il faut souligner que la juridiction est un pouvoir, mais n'est pas un pouvoir de juger. C'est une charge de droit public. Une fois encore, introducta cum necessitate, on retrouve la référence à cette force de la necessitas, force du droit ici plutôt que de la force des choses, qui introduit aussi une distinction entre dire le droit, ius dicentis, qui est différent de judicantis, de juger. Trois points sont à souligner dans cette définition de la juridiction comme potestas. Le premier point, je me contenterai ici de poser des questions, car les réponses sont très complexes et prendraient trop de temps, c'est quelle est la nature de ce pouvoir ? Comme dit Bald, ça ne suffit pas de dire que la juridictio est un pouvoir, c'est simplement descriptif. Pouvoir de quoi ? Quelle est sa portée ? Pouvoir pour quoi faire ? Aussi. C'est là qu'un juriste du début du XIIIe siècle, Azon, attire l'attention sur l'étymologie du terme. « Juris dictio », dit-il. « Dictio, dictio, c'est pouvoir. » Donc, la juridiction, ce n'est pas n'importe quel pouvoir, c'est le pouvoir du droit. Cette conception du pouvoir du droit est étendue par des juristes successifs à la définition de sa portée. En définitive, quel est le pouvoir suprême ? Quand on touche au fond de la question, pour le juriste, c'est le pouvoir de vie et de mort qui est associé à l'idée de la potestas gladii. Nous passons ici à une question, je dirais, de la violence sociale du monde des juristes médiévaux, à une question juridique, à partir du moment où ce pouvoir de vie et de mort va être compris et défini par l'intermédiaire de la juridiction, moins comme un pouvoir de justice que par un droit de vie et de mort. S'il y a donc sécularisation chez Kantorowicz de la représentation des modèles de l'État, il y a aussi essentiellement chez les juristes ce que j'ai appelé une juridification de la violence, de la violence sociale et politique de la société médiévale, dans le passage d'une idée de pouvoir par l'interprétation de la juridiction à l'idée du droit. Troisième et dernier point, sur la question de la juridiction et son rapport à la justice, il faut aussi souligner ici une différence que, malgré ma lecture, j'espère, approfondie de Kantorowicz, je n'ai pas pu saisir dans sa définition de la justice, une différence dans la conception de la justice et dans la conception du juste, avec un basculement, je dirais, d'une position augustinienne que l'on retrouve exprimée au départ dans le décret de Gratien, c'est-à-dire l'idée du juste comme iusté, de juger justement, à une idée de la justice comme juger recté, c'est-à-dire non pas en référence à l'idée du juste, mais en référence à l'idée de la règle. Ce basculement de la iusté iudicat à la recté iudicat est aussi un des éléments essentiels dans l'interprétation de la conception de la juridiction, non pas seulement comme pouvoir de dire le droit, mais comme aussi pouvoir de statuer en équité et de rendre la justice. Sur ce point, d'ailleurs, les juristes utilisent une comparaison avec la notion de gouvernement. Notion de gouvernement qui est exprimée au début des instituts dans la célèbre déclaration de l'empereur, que les juristes avaient reprise à leur compte d'ailleurs pour justifier leur position de chevalier du droit, quand l'empereur disait qu'il était important pour la majesté impériale non seulement d'être orné par les armes, mais aussi d'être armé par les lois pour, non pas iusté gubernari, pour gouverner justement, mais pour recte gubernari, c'est-à-dire pour gouverner conformément aux règles. C'est donc, en conclusion, je dirais que la sécularisation que décrit Kantorowicz dans le processus de passage, donc d'innovation de la théologie au droit par les juristes, est un processus qui n'est pas simplement de sécularisation, mais qui est aussi un processus par lequel le droit lui-même devient à la fonction structurante d'une nouvelle conception institutionnelle du pouvoir. J'ajouterai d'ailleurs dans cette fonction structurante un autre élément qui est absent, mais on pourra ouvrir une discussion sur ce point, absent de l'analyse de Kantorowicz, c'est aussi sur la fonction structurante de la juridiction dans son rapport à l'espace. Et le passage donc de l'espace à la notion de territoire, conception définie d'ailleurs dans le De Verborum Significatione au Corpus Iuris Civilis, en lequel, nous dit-on, le mot territoire vient du mot terreur, car c'est sur cet espace que s'exerce la terreur du magistrat, c'est-à-dire le pouvoir. Je vous remercie.